monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Komi Afetse, américain né au Togo, ingénieur des bases de données au Pentagone, auteur d'une biographie qui retrace son arrivée aux États-Unis à l'âge de 24 ans. Et vous vous qualifiez de défenseur public d'une vie réussie. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors en 2004, vous avez quitté votre pays d'origine à la recherche d'une vie meilleure aux États-Unis. Après des débuts très difficiles, vous vous êtes enrôlé dans l'armée et vous avez été naturalisé en 2011. Vous avez ensuite obtenu un baccalauréat à l'Université d'État de Caroline du Nord. Et en tant que sous-officier des affaires civiles et des opérations psychologiques, vous avez été déployé à Djibouti en 2014-2015. Vous avez ensuite obtenu votre nomination d'officier de l'armée américaine. Vous travaillez en tant qu'ingénieur des bases de données pour le département de la défense. Vous êtes l'auteur donc d'une biographie dont le titre en anglais est Chasing My Dream. Autrement dit, à la poursuite de mon rêve, l'histoire d'un immigrant africain en Amérique. Et c'est vous. C'est l'histoire de la persévérance, la résilience, la détermination d'un jeune qui veut réussir sa vie. Et vous êtes auteur de plusieurs essais sur le développement personnel, la fixation d'objectifs, et vous êtes également conférencier motivateur. J'aime beaucoup le terme aussi, c'est très américain ça, n'est-ce pas?
Oui.
Conférencier motivateur et fondateur d'une société de conseil en épanouissement humain. Un grand merci encore d'être avec nous. On est impressionné forcément par ce parcours et ce qu'il faut dire peut-être d'emblée, parce que quand on dit un parcours très très difficile, on va commencer par le début. Oui. Vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez été incarcéré pendant près de 4 mois.
Oui.
Par les services des douanes et de l'immigration. Et à l'époque, vous ne pouviez même pas lire ou écrire l'anglais. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, en arrivant, c'était la malcompréhension, je dirais, parce que je parlais pas tellement, pas du tout l'anglais, et j'étais arrivé un peu en retard à mon école. Donc il y avait de l'incompréhension dès le début, et bon, après plusieurs heures à l'aéroport, je me suis retrouvé la première nuit aux États-Unis en prison, en détention. Et de là, j'étais resté là-bas pendant 4 mois. En attendant que la procédure suive son cours jusqu'à je sois libéré le 19 août 2004. Puis il y avait tellement d'immigrants que bon, pour voir le juge, ça prenait du temps. C'est ce qui m'a retardé. J'avais des amis de la famille qui se sont mis ensemble, qui ont cotisé dans le moment pour me prendre l'avocat. Et ce que nous ignorons souvent en venant d'Afrique est que un visa pour les États-Unis te permet de te présenter aux portes des États-Unis. Ça ne te donne pas accès. C'est l'officier qui est à l'aéroport ou bien au port
qui décide
vraiment de ton entrée aux États-Unis.
C'est dans la presse.
Le site de traduction Google Translate veut proposer le choix entre le masculin et le féminin pour certaines langues.
Oui.
Comme je ne sais pas si vous avez eu affaire à ce problème dans les traductions.
Oui.
Et dans un premier temps, il offrira le choix pour une traduction de l'anglais vers le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, ainsi que pour le turc vers l'anglais. Historiquement, il n'offrait qu'une traduction. Même si la traduction pouvait être aussi bien au masculin qu'au féminin, par conséquent, il reproduisait par inadvertance le sexisme ambiant, reconnaît Gogol. Par exemple, il préférait le masculin pour les mots comme fort ou docteur,
oui,
et le féminin pour d'autres mots, choisissant infirmière ou belle,
oui,
plutôt que le masculin. Donc on peut parler de sexisme là quand même.
Oui.
Et Google promet d'ajouter davantage de langues et de s'attaquer au sujet du genre non binaire.
Oui.
C'est une bonne question.
Oui.
Alors en recevant le Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 2018, c'est un autre sujet. Hein.
Oui.
Le gynécologue congolais Denis Mukwege, il opère donc les femmes et les enfants violés dans l'est de la RDC, et l'irakienne Nadia Mourad, jeune yazidi ancienne captive des djihadistes, ont réclamé la fin de l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, ça c'est le docteur Mukwege qui l'a dit,
oui,
mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. Commis ces problèmes de violence contre les femmes, comment vous voyez ça, vous qui êtes d'ailleurs dans l'armée, qui êtes amené parfois, vous avez été amené à aller sur le continent ou ailleurs, et par rapport à ce que vous avez fait en spécialiste en psychologie,
okay,
est-ce que vous avez été confronté à ce type de violence contre les femmes?
Oui, tu sais, dans l'exercice de mon métier, nous avons souvent été envoyés dans des régions, peut-être en Afrique, où nous pensons que la violence contre les femmes est toujours d'actualité. Peut-être que dans les pays occidentaux, c'est plus ou moins masqué, mais ça se trouve toujours dans les maisons.
Oui.
Mais
oui,
souvent en Afrique, il y a toujours ce regard sur la femme comme pas égale à l'homme. Et ce qui fait que les gens continuent toujours pas à considérer les femmes comme des propriétés, des objets, et utilisent la violence contre les femmes comme des armes. Peut-être dans les zones de guerre, mais c'est quelque chose qui est encore un problème réel dans nos sociétés en général et particulièrement en Afrique.
Alors, comment gagner sa vie quand on est jeune? C'est notre sujet, hein.
Oui.
Suivre son objectif et réussir, parce qu'on a tous envie de réussir.
Oui.
On est tous des humains sur cette planète, on est né un jour, et puis notre vie arrive, elle passe, et on veut réussir.
Oui.
Alors, vous, votre modèle, il est quand même vraiment très particulier. Vous
oui,
avez quitté votre pays, vous êtes venu ici, vous êtes retrouvé dans une situation qui a dû vous faire réaliser que finalement, votre rêve, il commençait d'une manière un petit peu, on va dire, chevaleresque,
oui,
n'est-ce pas?
Oui.
Et donc, mais tout le monde ne part pas aux États-Unis. On a les jeunes chômeurs, les étudiants en Afrique dont le rêve est de réussir chez
oui,
eux,
oui,
bien sûr. Est-ce que votre modèle, je veux dire votre modèle de réussite,
oui,
psychologiquement parlant, socialement parlant,
oui,
est-ce que vous pouvez l'adapter au continent, aux jeunes Africains qui est là-bas?
Bien sûr que ce dont je parle dans le livre peut être adapté à l'Afrique. L'un des problèmes de l'éducation que nous avons en Afrique, c'est le manque d'enseignement concernant ces sujets. Si tu poses la question à tout Africain, si on l'a déjà enseigné à l'école, comment réussir sa vie, ils te diront non. On n'a jamais entendu parler de ça. Mais pourtant, quand tu viens dans les universités occidentales, tu pourrais voir que tu peux faire des recherches et effectivement comprendre comment réussir. Donc, en Afrique, nous n'avons pas tellement d'informations sur ça. Moi, j'ai évolué dans le système éducatif français qui
vous
était
très bon. Vous voulez dire que l'éducation américaine est plus adaptée à la vie active que
oui, je dirais que,
en Afrique?
Je dirais que le système américain ici est plus centré sur ce que vous pouvez faire. Mais en Afrique, ou bien le système dans lequel moi j'ai évolué, je prends mon exemple, qui était un système français en Afrique, au Togo, vous êtes obligé à prendre, à avoir des diplômes, et à la suite, vous n'avez pas vraiment de la connaissance pour faire quoi que ce soit. Alors que les Américains font l'accent sur le savoir-faire.
Et c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. C'est là qu'on est toujours surpris.
Oui.
On s'imagine, mon Dieu, on arrive aux États-Unis, ce grand pays, il va falloir être bardé de diplômes, et en fait, c'est pas le cas.
C'est pas le cas.
L'Américain fait vraiment confiance à l'expérience et au savoir-faire et à la personnalité de la personne aussi.
Absolument. Mm-hmm. C'est pour ça que pour les jeunes Africains qui peut-être écoutent ce message, ils doivent savoir que réussir, c'est de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement les diplômes. Et ils doivent changer de mentalité par rapport aux diplômes. Les gens vont à l'école, ils ont des maîtrises, mais en réalité, ils n'ont pas de connaissances spécifiques dans un domaine où ils peuvent exercer. Mais pourtant, quand tu regardes autour de nous en Afrique, il y a tellement d'opportunités que les gens peuvent faire. Mais la plupart des gens disent, bon, j'ai étudié, j'ai fait la communication, et ils cherchent un travail dans la communication. Ils font des dossiers.
Mais c'est un réflexe qui n'est pas seulement africain, ça, je crois. C'est un réflexe général. La mentalité américaine, professionnelle, d'aller chercher un petit peu partout, ça, c'est typiquement américain. On est encore un petit peu dans cet état d'esprit-là, même en Europe, non? On suit une filière et bon, on va là où on nous mène.
Oui, mais si tu observes bien la société américaine, ils ont compris que en cherchant, jusqu'à un moment donné, les gens se donnent à créer eux-mêmes les emplois. Des petits emplois commençants. Il y a plein d'exemples, si on prend les Google, les Amazon, les gens qui ont commencé par entreprendre quelque part.
C'est vrai, on a de beaux exemples.
On a de beaux exemples. Les mêmes Apple, le téléphone, ce sont des gens qui ont commencé par faire quelque chose. Donc, ce modèle peut être adapté à l'Afrique. C'est-à-dire, il faut encourager les gens à ne pas seulement dire j'ai des diplômes et je cherche le travail dans un domaine bien donné et puis c'est tout.
Encourager les start-up.
Oui.
Parole de femme.
À Bukavu, dans l'est de la RDC, le prix Nobel de la paix 2018, reçu par le docteur Denis Mukwege, fondateur de l'hôpital Panzi, suscite un sentiment de fierté et d'encouragement pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Notre correspondant dans cette ville du Sud Kivu, Ernest Mouero, a recueilli des réactions.
Je suis fier de ça, ce n'est pas moi-même, mais nous tous ici au Sud Kivu, parce qu'il mérite ça. Il travaille bien, il est très courageux.
Moi, je me sens très fier de lui, qu'il continue tout le travail qu'il fait, parce qu'il aide beaucoup les gens, les femmes violées.
À travers ce prix Nobel de la paix que notre frère Mukwege vient de recevoir, que la paix réelle se fasse sentir dans notre pays et que finalement tout ce qui crée des conflits, qui crée des problèmes chez nous finisse par disparaître et que la paix règne à jamais.
Il s'est donné corps et âme pour aider les gens. En tout cas, je peux seulement lui dire coup de chapeau et que Dieu lui bénisse. Nous voulons que nos femmes soient dans leurs droits. Et lui, comme docteur, il a déjà le renommé. Il peut plaider encore plus pour que la violence puisse cesser dans notre pays.
C'est pas donné à tout le monde. Le travail que Mukwege a fait sur les femmes violées, sa forte implication à aider les autres, à risquer même sa vie à plusieurs moments.
Le prix traduit pour moi une capacité de rechercher la paix, de construire cette paix. Je lui dirais de continuer la lutte, parce que la lutte est gagnée et n'est pas encore gagnée, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
C'est une joie parce que je l'ai suivi et il parlait de la souffrance de l'Est. Donc je pense que ce prix-là, c'est tout un espoir pour le pays. Et nous avons des femmes, des filles dans des zones meurtries comme Beni, comme dans les Kassai, dans l'Ituri. Et toutes ces filles-là veulent voir Mukwege pour soulager tant soit peu leur souffrance. Il peut penser à certains projets comme il a fait ici à Bukavu.
C'était des réactions sur le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, recueilli par notre correspondant Ernest Mouero à Bukavu, dans le Sud Kivu, en RDC. Et je vous invite à écouter l'émission LMF du 9 octobre avec le docteur Denis Mukwege, rediffusée le 11 décembre à l'occasion de la cérémonie du prix Nobel de la paix 2018. Comme il a fait, on a parlé de la possibilité de créer sa propre entreprise. Et on revient toujours, j'ai fait plusieurs émissions sur la jeunesse, on revient toujours sur cette éventualité, cette possibilité. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas se lancer dans la création d'entreprise.
Oui.
Donc, je veux dire, quelles sont les qualités requises, quels sont les éléments motivateurs qui vont faire que, allez, on y va, on peut se lancer là-dedans.
En fait, ça commence par le changement de mentalité. Parce que c'est vrai, tout le monde ne peut pas créer les entreprises, mais aussi il faudrait que encourager les jeunes à ne pas tomber dans le fait que rien ne marche et que j'ai essayé, échoué.
Ouais, ouais.
Il faut les encourager.
Faut pas être défaitiste, c'est ça.
Et il faut changer de mentalité par rapport au diplôme que nous avons. Parce qu'au fait, à obtenir un diplôme universitaire veut simplement dire que vous avez la capacité d'apprendre. Donc, si vous avez le diplôme dans un domaine et que vous ne trouvez pas votre chemin là, vous pouvez toutefois apprendre quelque chose. et réessayer. Je vous donne un exemple. Il y a toute une filière de secrétariat administratif, par exemple, au Togo. Les gens étudient ça. Mais ce système était bien adapté dans les années 50.
Mais maintenant,
mais il y a toujours des filières qui produisent des milliers d'étudiants chaque année qui disent qu'ils ont eu des diplômes en secrétariat. Combien d'entreprises va pouvoir engager des gens qui sortent des écoles avec ces diplômes? Donc, il faut un peu réorienter ça. Et tu vois autour de nous en Afrique, il y a plein, plein de choses. Et un autre exemple, je vous donnerai ça, c'est quand j'étais allé à Lomé le mois d'août passé, dans le quartier où moi j'ai grandi, j'ai vu qu'il y a tellement d'ordures qui sont là. Plein d'ordures qui sont là. Il n'y a pas un service public qui s'occupe de ça. Et il y a des jeunes dans les quartiers.
Il y a des grosses lacunes, ouais.
Voilà, il y a des jeunes dans les quartiers qui se disent ont des diplômes et ils se promènent. Tu leur dis, il n'y a pas de travail, que j'ai fait des demandes. Alors que les jeunes peuvent s'organiser, commencer par ramasser des ordures des populations locales et puis leur demander de payer quelque chose. Je suis sûr que les gens... Donc l'entrepreneuriat, en fait, ça ne veut pas dire que tu dois avoir beaucoup d'argent pour commencer. Mais c'est le savoir-faire, cette recherche constante de résoudre les problèmes du milieu dans lequel on vit.
L'esprit d'initiative.
Voilà.
Absolument.
Voilà.
Et dans votre livre à vous, Chasing My Dream, à la poursuite de mon rêve,
oui,
comment vous l'avez écrit? J'ai vu que vous avez écrit ma première journée, ma première année.
Oui.
Donc c'est vraiment une progression lente qui s'est faite, ou c'est 14 ans à peu près, 14 ans.
Oui.
Pour arriver ici, c'est plutôt rapide. Vous êtes officier de l'armée maintenant.
Oui.
Donc vous êtes ingénieur au Pentagone,
oui,
c'est quand même pas rien.
Oui.
Et vous êtes arrivé sans connaître un mot d'anglais.
Oui.
Et vous avez écrit un livre en anglais, chose que moi je ne ferais pas. Je l'écrirais volontiers en français, mais pas en anglais.
Oui.
Comment ça s'est produit tout ça? Il y a eu des déclics ou vraiment ça s'est fait de manière très progressive?
Ça s'est fait progressivement. Et c'est ça même le secret de la réussite. La réussite n'est pas magique. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est progressivement, c'est de beaucoup d'années de dur labeur, d'études, de planification, d'essais. Et pour ne pas dire que tu vas tout réussir en même temps. Parce que j'ai écrit ce livre, la première partie, c'est deux parties. La première partie parle de mon parcours. J'ai décrit un peu comment j'ai grandi, ayant quitté le Togo, mes premières années, mes premiers pas aux États-Unis. Et dans la deuxième partie, j'ai parlé des principes de vie que nous devons connaître, tels que la persévérance. Comment persévérer si on est à la recherche de quelque chose? Comment se fixer des objectifs? On ne nous enseigne pas ça à l'école. On ne nous enseigne pas que nous devons, en tant qu'être humain, se fixer des objectifs si on veut avancer.
Oui, c'est vrai, on n'apprend pas toutes ces choses-là.
On n'apprend pas ça. Comment gérer son temps? Parce que chaque jour à 24 heures, ta vie est la somme de comment tu dépasses tout ton temps. Donc, beaucoup de jeunes sont là, en longueur de journée, et ils dépensent leur temps à faire des choses qui ne sont pas utiles. Mais à la fin de la journée...
Et même à ne rien faire.
À ne rien faire. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de besoins dans la société, dans nos communautés, que les gens peuvent s'organiser juste en réfléchissant de résoudre un petit problème de sa communauté. Et de là, vous pouvez réussir votre vie en faisant ça.
Si je ne pouvais...
On en a parlé tout à l'heure, hein, Komi, des jeunes créateurs de start-up issus de l'école supérieure polytechnique de Dakar au Sénégal se sont regroupés au sein d'une même entité dénommée Espace Innove. Ça veut dire environnement spécialisé pour accompagner la créativité, l'entrepreneuriat et l'innovation à l'université. On fait jamais cours dans les nouveaux termes. Et donc c'est dans le but de mutualiser leurs compétences et d'être plus performants dans leurs projets. Cette expérience a été rendue possible par le pionnier Ibrahima Khan, un ancien étudiant de leur école qui a profité des bonnes performances de sa start-up pour intégrer le management de l'université. Très bonne idée, n'est-ce pas?
Oui.
Notre correspondant Sedina Abagay nous en parle dans son reportage et ça rejoint ce que vous venez de dire.
Oui.
Ingénieur de conception en génie informatique, Ibrahima Khan est devenu enseignant au département génie informatique et responsable du pôle entrepreneuriat et innovation au service de valorisation de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Il y a un an, il était toujours étudiant. Aujourd'hui, il offre son expérience à la communauté.
L'objectif, c'est de développer un environnement propice à l'innovation et à la création de start-up, en renforçant le leadership et la culture entrepreneuriale chez les étudiants, en mettant en place un cadre d'échange et de travail collaboratif à l'intérieur de ces universités.
Espace Innov, c'est aussi des génies en herbe qui espèrent résoudre des problèmes sociaux de longue date. Pape Omar Nyan est cofondateur de l'application Sonobus qui s'attaque aux problèmes du transport en commun. Malheureusement, il ne bénéficie toujours pas de la collaboration des compagnies de transport.
Aujourd'hui, Sonobus est peut-être la 11e ou 12e start-up qui essaie de régler le problème des bus aujourd'hui à Dakar. Le problème, c'est que la solution évidente serait de mettre les GPS directement au niveau des bus. Et pour cela, il faudrait une collaboration avec Dakar, Dendik ou Aftu. Malheureusement, ces compagnies sont très lentes à réagir face à des demandes pareilles. Peut-être qu'elles veulent réaliser les projets eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a opté pour un modèle où nous serons assez indépendants de ces compagnies-là et proposer un service qui va essayer au moins de régler le problème.
Face à l'indifférence de leurs potentiels partenaires, les startups d'Espace Innov comptent s'appuyer les uns sur les autres pour mener à bien leurs projets. Ibrahim Akan estime que la solidarité au sein de la communauté est vitale.
Les gens qui sont dans l'Espace Innov, certes c'est des étudiants, mais ils sont très autonomes. Ils essaient de trouver par leurs propres moyens, ils essaient de se former en communauté et c'est ça qui est le plus important. Si on reçoit de l'aide ailleurs, tant mieux. On va les féliciter, on va les remercier, mais on attend plus de la communauté.
À terme, les initiateurs d'Espace Innov veulent étendre le projet aux autres universités et centres de formation du Sénégal afin d'encourager les jeunes à entreprendre. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Vous avez vu, c'est vraiment le sujet, oui. Les jeunes qui entreprennent dont vous avez parlé, oui. Mais ils sont pas beaucoup aidés quand même.
C'est ça, c'est la réalité, parce qu'il y a toujours ce que j'appelle les anciens gardes toujours au contrôle des choses, donc ils n'ont pas cette capacité de voir ce que ces jeunes-là sont en train de voir. Mais mon conseil, c'est de persévérer, parce que les choses vont toujours changer et les générations vont partir. Et c'est à la jeunesse africaine de prendre la relève. Donc il y aura toujours des blocus, et ça c'est vrai, mais avec le temps, et le temps vraiment est l'allié de la jeunesse, et continue par faire ce qu'ils font, et tu verras qu'au fil des années, ça va se réaliser.
Ça va payer.
Oui.
La persévérance, vous mettez l'accent sur la persévérance, la résilience, la capacité à recevoir des coups.
Oui.
Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire non quand même?
Oui, vous avez le droit de dire non, et ça serait aussi la fin de vos rêves.
Parce
que,
bon?
Oui, si vous dites non à la
vie. C'est pas une autre porte qui peut s'ouvrir?
Mais bon, si dire non de soi ou bien non à l'opportunité.
Non, je parle de la résilience.
Oui.
Le fait d'encaisser, de tout encaisser tout le temps comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, il est pas bien aussi de redresser la tête et justement, ce qui peut nous ouvrir d'autres portes?
C'est vrai. Dans toute situation de défaite, il y a toujours une autre opportunité. Et c'est là où vraiment vous devez ouvrir vos yeux, si je dis vos yeux, pas les yeux physiques, mais toujours rechercher une autre porte de sortie. Et vous pouvez peut-être commencer quelque part et vous n'allez pas finir là-bas. Moi, mon propre exemple, je n'avais jamais pensé rentrer dans l'armée américaine, mais c'est parce que je cherchais d'opportunités et que j'étais prêt vraiment à tout faire pour réussir ma vie. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai dit oui. J'ai fait des petits boulots, j'allais deux, trois boulots à la même temps, mais ça n'allait toujours pas. Mmh. Et à un moment donné, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai dit oui, bon, je vais aller essayer. Mmh. Et de là, je suis encore parti vers d'autres aventures. Et c'est ce que je continue à faire.
Et l'armée, comme vous venez de le dire, vous n'y avez pas pensé. Est-ce que maintenant, vous pensez que vous êtes à votre place à l'armée?
Oui, je suis à ma place à l'armée.
C'est là que vous deviez vous trouver?
Pour le moment, oui, je dirais. Mmh. Parce que je ne suis pas... Je suis encore jeune, je me considère jeune, et je n'ai pas encore fini.
Oui, puis à l'armée, on peut être à la retraite relativement jeune aussi. Hein.
Voilà, voilà. Et donc, j'ai encore d'autres projets, j'ai encore d'autres idées. Et la bonne chose dans l'armée américaine est que ce n'est pas un contrat à vie. Si je décide de finir, je soumets seulement mes dossiers que bon, j'en ai fini, et que je peux sortir et faire d'autres choses. Et tout ce que j'ai appris comme... connaissances vont me suivre dans mes autres aventures.
Je présente votre livre rapidement, Chasing My Dream de Komi Afetse. Un grand merci pour ce livre. On peut le trouver où ce livre très rapidement, dites-nous?
Le livre là, c'est disponible sur Amazon et c'est disponible aussi sur mon site personnel qui est komiafetse.com. Et j'ai aussi la version française qui vient de sortir.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, une bonne nouvelle. Et ça, c'est aussi disponible sur Amazon et bientôt l'année prochaine sera disponible à Lomé, au Togo.
Formidable. Un grand merci, Komi Afetse, pour ce témoignage qui s'adresse aux jeunes, à la jeunesse du continent. Et d'ailleurs, un grand merci à Wagner Robert et à Sims Loumami, à la production. Et bien entendu, le plus grand des merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.